Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap avec Ilka Firkant.
Bonjour.
Bonjour, Ilka. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors ce jour, je reçois une artiste, une comédienne, elle est allemande, mais elle parle un français qui fait rougir mon allemand, et même plus que ça. Elle va évoquer son parcours, mais aussi son dernier spectacle, Opa, qui s'apparente, ça c'est moi qui le dis, mais elle me corrigera tout à l'heure, qui s'apparente à une véritable thérapie et qui, je vous l'assure, ne laisse pas du tout indifférent. Bonjour Ilka Firkant, est-ce que je prononce bien votre nom déjà ?
Oui, c'est pas mal.
C'est pas mal. Bon, alors ça va. Alors, vous arrivez de Munich, une ville que nous connaissons bien, et vous avez toujours vécu à Munich dans vos jeunes années ?
Bon, je suis née à Munich, j'ai fait mon bac à Munich, j'ai fait mon première. Je me suis dit, je vais faire des études, je ne savais pas quoi, à Munich, de pédagogie de l'art, et après, je voulais faire du théâtre. Et
alors
c'était
pourquoi
pas
le théâtre, c'est... Bon, qui est votre métier aujourd'hui, on le sait. C'était les parents qui vous ont poussé, c'est l'environnement.
Pas du tout. Moi, en fait, je ne voulais pas faire du théâtre, je voulais bouger. Alors, mon rêve, c'était de devenir Ausdruckstänzerin, ça veut dire danseuse expressive.
Est-ce que c'est une danseuse expressive ?
Alors, par exemple, Pina Bausch fait une danse expressive ou danse théâtre. Ça veut dire, moi, j'avais en moi plein de choses à raconter, mais je ne voulais pas utiliser les mots, parce que les mots, ils m'ont fait très, 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 très peur. Et ça, c'était une manière de travailler avec le corps, raconter les histoires avec le corps, sans me mettre dans ce terrain très, très, très dangereux pour moi, les mots.
Et pourtant, vous y êtes venu. Alors, pourquoi vous n'avez pas suivi la première inspiration ? Pourquoi vous n'avez pas fait cette danse, justement, expressive ?
Moi, je suis allée à Essen et je fais...
C'est une ville allemande, hein ?
C'est une ville allemande, plus haut.
Vous avez fait théâtre Untanz, c'est ça ?
Oui, c'est, bon, c'est là où Pina Bausch a fait ses études et aussi était professeur.
Vous avez travaillé avec Pina Bausch ?
Non. Et je l'ai juste vu croiser le cours.
Ouais. Une grande dame.
Oui.
Donc vous êtes dirigé vers le théâtre à ce moment-là ?
Oui, je fais du théâtre, je veux dire, je fais du mime. C'est la seule école publique en Europe où tu peux faire physical theatre. C'est-à-dire, dans le temps, c'était encore mime. Maintenant, ça s'appelle physical theatre.
Je ne le répéterai pas. Et le mime, vous en faites encore ?
Bon, j'utilise.
Techniques.
Alors, par exemple, dans cette école, il y avait très, très... Cette classe, c'était très, très petit. Alors, on était deux. Dans la classe, au-dessus de moi, il y avait trois. Au-dessus, il n'y avait personne parce qu'il y avait... Et en dessous, ils n'ont pas pris parce que les professeurs sont allés en retraite. Ils ne voulaient pas prendre les élèves après abandonner. Alors, en tout, on était cinq. Et tous ces élèves, aussi des anciens élèves, ils étaient très soudés. Il y avait une solidarité entre nous, ce qui a fait qu'après, j'ai resté avec, malgré le fait que je n'ai pas fini l'école, j'ai resté en contact avec eux. Et quand j'étais à Berlin, c'était un peu normal que j'ai contacté mes copains de cette école et j'ai travaillé avec eux aussi.
Alors, on a un grand mime en France qui était le mime Marceau. J'ai eu plaisir d'ailleurs de faire une émission avec son épouse et sa fille qui... ont entretenu la flamme. Il y a de grands mimes allemands comme le mime Marceau. C'est une référence qui...
Marceau, il est venu à Essen faire un discours sur son art. Moi, à 18 ans, je l'ai vu à Munich. J'étais éblouie de son art. J'ai demandé, vous me faites un autographe, s'il vous plaît, monsieur. Mais je ne parlais pas français, mais j'ai essayé tout. J'étais à l'école quand il est venu. J'étais moins éblouie parce que, comme pédagogue, je le trouve moins évident que comme artiste. Et
c'est un métier, la pédagogie. On peut être un grand artiste. Et puis, il y a des grands juristes qui sont de piètres professeurs d'université, nous le savons. Être artiste en Allemagne, c'est comme être artiste en France.
Il n'y a pas l'intermittence du spectacle. Alors,
oui, c'est la question que je voulais vous poser. Alors, l'intermittent du spectacle, c'est un régime qui permet effectivement de vivre moyennant la réalisation tout de même d'un certain nombre d'heures de scènes. Et en Allemagne, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que les artistes sont beaucoup plus fragilisés.
On ne peut pas vraiment dire ça. Parce que moi, je vis la vie d'artiste ici plus fragile qu'en Allemagne pour moi. Parce qu'ici, cette chasse au cachet. Chaque année, il faut savoir est-ce que tu réussis à faire ton statut ou pas. C'est très fragile. Pour moi, je le vis plus fragile qu'en Allemagne. En Allemagne, bon, chaque ville a au moins un théâtre, si pas plus. Je crois Berlin a 200 théâtres publics avec ensemble en France, en toute la France entière. Je crois qu'il y en a 5. Des théâtres avec ensemble payés par l'État.
Oui, ça c'est assez rare ici, effectivement.
En France, du coup, la France, elle paye les théâtres avec l'intermittence. En Allemagne, l'État paye les théâtres pour faire du théâtre.
Ça veut dire qu'il y a des troupes attachées à chaque théâtre.
Ah oui.
Donc qui ne sortent pas de cette troupe et qui vont passer leur vie dans ce théâtre-là.
Bon, il y a des accords entre théâtres, ça veut dire...
Il y a des échanges,
il y a des voyages,
il y a des spectacles qui tournent. Des coproductions, on va dire.
Oui, c'est une filière et après, bien sûr, il y a les théâtres freelance. Et les théâtres freelance, c'est plutôt des entreprises. Ce n'est pas des associations, c'est des entreprises.
Donc, ils cherchent la rentabilité. Est-ce que l'état d'esprit n'est pas le même? Mais est-ce que le résultat est le même?
L'État fait un peu la même chose que l'État français, sauf qu'il n'y a pas l'indemnité
de
chômage.
Les indemnités de chômage, oui.
Ça veut dire que tu déclares que l'année à venir, tu vas gagner 30 000 euros par an. Et du coup, ils déduisent les charges sociales sans temps. Et après, l'État paye la moitié. Sauf si tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent. Mais moi, étant artiste, et ce n'est pas seulement les artistes de théâtre, mais aussi les sculpteurs, n'importe, les représentations sont payées très bien. Et il faut mettre un écart. Il faut mettre à côté pour les années pauvres. C'est notre esprit de esprit.
Oui, on n'a pas tout à fait le même en France, hein, vous l'avez constaté. Comment se porte la culture en Allemagne aujourd'hui?
Ouf.
À ce point.
Non, mais bon, la culture maintenant, depuis 2 ans, c'est très, 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 très
difficile. Parce qu'il y a le Covid,
difficile.
Mais hors Covid.
Bon, je suis pas expert des cultures en Allemagne parce que ça fait éternité, bon, vécu que je suis longtemps ici, mais bon, j'ai joué longtemps avec le troupe de théâtre Familie Flötz, qui est basée à Berlin. Et ça, c'est une troupe qui n'est pas subventionnée, qui n'a aucune subvention et qui travaille avec les tournées mondiales. Parce qu'il n'y a pas de parole, comme je vous ai dit, et je n'ai pas trop aimé. Alors, je trouve un théâtre qui ne parle pas. Et comme il ne parle pas, on peut jouer dans le monde entier.
Qu'est-ce qui plaît à nos amis allemands? C'est plutôt le théâtre, plutôt la lecture, plutôt l'opéra.
Bon, ça, c'est très individuel, c'est intime.
Il n'y a pas une forme de culture qui prédomine par rapport à...
Moi, j'ai, par exemple, le théâtre elle-même, et je crois... En France, on préfère plus le mot qu'en Allemagne. En Allemagne, il y a plus de blagues physiques. Il y a une autre manière de faire le théâtre, beaucoup plus physique qu'en France. Sans texte, il n'y a pas de théâtre, j'ai l'impression, en France.
Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent en Allemagne pour le théâtre, uniquement pour le théâtre. Ou alors on joue des pièces qui sont des classiques. Il y a quand même beaucoup de créations, j'imagine.
Le truc, c'est que comme il y a tellement de théâtres et ils ont cette chance inouïe de pouvoir travailler en ensemble pendant des années, ça veut dire qu'ils peuvent créer. Ils peuvent vraiment créer des années ensemble.
Donc il y a un esprit de troupe, de compagnie, effectivement,
ensemble,
avec de la fidélité et où on... où on sait travailler ensemble, où on crée ensemble.
Oui, en même temps, les jeunes acteurs, actrices qui sortent des écoles, souvent, ils sont un peu très mal payés, travaillent beaucoup, mais ils ont leur place.
Ça veut dire donc, Ilka Firkan, que tout le monde travaille en Allemagne. Tout le monde essaye de... Bon, c'est difficile, c'est dur, mais il y a toujours des engagements possibles.
Pas forcément. Si, bon, si tu es acteur et tu as fait ton école, ton conservatoire et tu fais des auditions...
C'est important d'avoir fait une école d'Allemagne où quelqu'un qui n'a pas fait d'école ne travaillera pas.
Non, c'est pas vrai. Si t'as pas fait l'école et tu t'es forgé ailleurs, tu peux toujours faire, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais comme ici, hein. Si t'as fait la Comédie Française ou t'as fait cette annexe ou cours Florent ou n'importe, tu vas trouver plus facile que si t'as rien fait. Hein.
Bah, le cours Florent, c'est le haut de la pile là. Et vous chantez aussi, j'ai cru voir dans votre bio que vous aviez pris des cours de chant, que vous chantez aussi?
Je chante aussi, bon, je ne suis pas super chanteuse, mais le chant, c'est pour moi le meilleur instrument parce que ça fait vibrer toutes tes entrailles.
Vous avez pris des cours, parce que chanter, bon, on peut chanter dans, hein, dans sa douche ou en se rasant ou autre chose. Mais chanter sur une scène, c'est tout à fait différent. Il faut maîtriser l'outil de la voix.
Bon, j'ai pris les cours, mais bon, j'ai pas fait le conservatoire. Oui, Par contre, quand je suis... Alors, j'ai fait les concours d'entrée à Essen. Et le premier jour, accueil avec les professeurs et tout, et j'ai vu, waouh, j'ai découvert cette école. Je me dis, waouh, on peut tellement faire des choses. Est-ce que je peux prendre des cours de chant? Et les profs me regardent et me disent... Théoriquement, oui, mais vous n'aurez pas le temps. Alors,
pas de cours de chant.
Pas de cours de chant, mais ça, je l'ai fait à Toulouse, sur Toulouse.
Vous enseignez le théâtre aujourd'hui? Vous donnez des cours?
Non.
Non. Ça ne vous a jamais tenté
Je l'ai fait beaucoup à Berlin. J'ai donné des cours directement après la chute du mur. Les universités de l'Est, ils étaient ouverts, ils étaient avides de rencontrer les gens de l'Ouest. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir donner des cours à la Humboldt-Universität, à Hochschule Alice-Solomon. J'ai fait des cours à Mendelssohn-Bartholdy à Leipzig. J'ai travaillé en Pologne. J'ai fait des cours de mouvement pour Theaterschule, Freie Theaterschule Berlin. J'ai travaillé beaucoup avec des handicapés, avec des malades mentaux.
Ça, il y en a pas mal, oui. Ouais. Après, ils ne sont pas tous soignés, malheureusement. Alors, on a parlé de Berlin, on a parlé de Munich et Toulouse. Alors, qu'est-ce qui vous a amené? Alors que là-haut, il y a quand même une scène importante en Allemagne, beaucoup de débouchés, et puis vous venez à Toulouse.
Et je ne voulais pas venir à Toulouse. En fait. Je voulais rester à Berlin, ça, c'était évident.
Il paraît que c'est une ville magnifique, d'ailleurs.
C'est magnifique, en plus. Moi j'ai vécu les meilleures années à Berlin, je ne voulais pas partir. Mais j'ai gardé ma troupe et j'ai resté à Berlin, malgré que j'avais un pied ici, j'avais l'autre pied à Berlin.
Alors, quel était ce pied que vous aviez ici, qui vous a amené de Berlin? Alors, il y a beaucoup d'Allemands à Toulouse, mais la plupart, quand on les rencontre, ils travaillent chez Airbus.
Oui.
Et ils ne travaillent pas sur la scène toulousaine. Qu'est-ce qui vous a amené ici?
C'est mes enfants, en fait. J'étais enceinte de... Le papa était français, j'ai dit, tu veux pas venir à Berlin? Non. Strasbourg? Non. Bordeaux? Non.
Donc ça a été Toulouse?
C'était Toulouse, oui.
Et Toulouse, où vous êtes de suite placé auprès de gens de théâtre, dans des théâtres, ou pas du tout?
Pas du tout. Moi, j'ai travaillé avec une compagnie de Berlin, la famille Flötz. Et j'étais beaucoup, beaucoup en tournée. Et quand je suis revenue à Toulouse, j'étais maman au foyer. Et ce n'était pas facile, en fait.
C'était beaucoup, certainement. Beaucoup moins amusant et gratifiant. Quel accueil vous ont réservé les Toulousains, les gens de théâtre toulousains?
Bon, je dois avouer que je n'ai pas cherché au début. La première fois, j'ai essayé de comprendre comment ça marche avec cet intermittent spectacle. Je n'ai pas compris. Alors, je me suis dit, je vais aller à la bourse de travail. Je suis allée à la bourse de travail pour dire, mais alors, je travaille avec une compagnie allemande. Là, j'habite en France. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire cet intermittent spectacle? Et ils m'ont répondu, nous, on est allé à la rue, vous n'aurez que faire pareil.
C'est ce que j'appelle un bel accueil, effectivement. Vous savez que vous avez appris la langue, vous l'avez apprise à l'école ou c'est en étant marié à un Français que vous avez...
Bon, j'ai... L'école en Allemagne, c'est très élitiste, en fait, surtout en Bavière. Alors, il y a le système de trois chemins. Il y a l'école basique, Hauptschule, l'école moyenne, Realschule, et le lycée où tu fais ton bac. Et moi, j'étais un peu, comment on dit, pas con, mais j'ai rien compris.
C'est très toulousain, ça. Je crois que vous avez déjà pris tout le vocabulaire le plus élaboré des Toulousains qu'on entend à tous les coins de rue.
J'étais alors, et dans les premiers deux filières, il faut juste une langue. Alors, j'ai pris anglais. Et c'était très tard, j'ai pris le français et j'ai fait le bac, mais tard, du coup, il fallait rattraper le français et j'avais toujours eu mal et j'ai presque raté mon bac à cause de mon manque de français.
Vous avez quand même une pointe d'accent, même si vous parlez bien le français. Je vous disais tout à l'heure que j'aimerais parler, moi qui ai fait allemand en première langue, j'aimerais parler l'allemand comme vous parlez le français, mais est-ce que cette pointe d'accent vous empêche de jouer dans une troupe toulousaine ou de...
On est... Non, parce que c'est peut-être c'est comment on dit, c'est négatif, mais c'est aussi positif. C'est juste, c'est une couleur. Pour moi, c'est une couleur. Bon, je pourrais pas travailler dans un théâtre classique et faire une rôle classique, mais en toute façon, moi, ce que je fais, c'est j'ai fait toujours des créations. Alors, je partirai toujours de ce que j'ai, et ce que j'ai, c'est un accent.
Vous parliez de classique là à l'instant, vous avez joué des rôles très très classiques,
jamais.
Du Molière par
jamais.
Exemple, on sait que nous rentrons dans l'année Molière, non, jamais.
Non.
Parce qu'on ne vous l'a pas proposé ou par choix?
Par, ça m'est jamais arrivé de vouloir d'y aller dans cette, comme être que interprète, je voulais toujours être créatrice.
Et on joue ce qu'on crée, c'est ça?
On joue ce qu'on crée ensemble, oui.
Mais vous êtes capable d'écrire pour d'autres et de...
Non.
Non. Donc quand vous écrivez, c'est toujours pour vous ou pour les gens qui jouent avec vous?
C'est jusqu'à maintenant, je ne suis pas capable d'écrire que pour moi ou tout seul. Je prends toujours des collaborateurs.
On va y venir tout à l'heure, mais on sait quand même que vous êtes capable d'écrire que pour vous. On y viendra tout à l'heure. Le one-man show, c'est ce que vous faites aujourd'hui quand même.
Oui, mais je l'ai co-écrit avec Bernadette Porquier, c'est une autrice de théâtre.
Pour quelqu'un qui avait peur des mots, qui s'en méfiait, finalement, vous êtes en plein dedans.
Mais le truc, c'est que je vous parle en français. Et je ne vous parle pas de ma langue natale. Ça veut dire que les mots que je vous parle ne sont pas connectés tout à fait avec mes tripes. Alors, ma liberté est plus grande. Et avec ça, j'ai moins de peur de faire des faux pas. Mais il y a le contrepartie que je ne suis pas liée avec mes peurs. Et du coup, il y a cette liberté, mais aussi il y a ce manque de...
Quand vous pensez en allemand, donc.
Ça dépend avec qui je suis. Parce que je parle quatre langues, alors je navigue...
Alors, français, allemand, et quels sont les autres? Anglais, on
anglais,
a compris.
Anglais, espagnol.
Espagnol, d'accord. Donc, vous pensez en fonction... C'est intéressant. Vous pensez dans votre tête en fonction de la personne qui est en face de vous et dans la langue avec laquelle vous vous exprimez avec elle.
Oui, je ne traduis pas.
Vous ne traduisez pas?
Non.
Ça devient automatiquement.
Sauf si je cherche un mot. Là, du coup, ça peut m'arriver que je trouve le mot espagnol ou le mot allemand, ça fait une salade. Mais jusqu'à ce que je ne cherche pas le mot, je ne traduis pas.
Et vous n'avez jamais fait de traduction de pièces pour la jouer?
Non,
jamais.
Non. Je ne me considère vraiment pas comme personne de mots. J'utilise les mots pour transporter quelque chose que j'ai à dire.
On va faire une première pause musicale. Et maintenant que je sais que vous parlez parfaitement espagnol, je vais vous la laisser annoncer. des fois que votre accent serait meilleur que le mien. Qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter, Ilga Firkant?
Gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado.
Voilà, Gracias a la vida, chanté par Mercedes Sosse, et nous retrouvons notre invitée du jour, Ilka Firkant, actrice franco-allemande. Pourquoi ce choix, Ilka?
Gracias a la vida, pour moi, c'est voudrais le faire tous les jours, dire merci à la vie. Et tout ce que... Et je trouve que ça va droit au cœur, pour moi, de dire merci à la vie, malgré tout.
Une vie un peu compliquée ben, ces temps-ci, depuis 2 ans, mais on sait pourquoi. Alors, venons-en à votre dernier spectacle qui s'appelle Opa, ce qui veut dire en allemand grand-père.
Papi,
oui, grand-père, c'est un autre mot, papi. Et alors, vous m'avez écrit, le spectacle Opa porte sur l'effet transgénérationnel des bourreaux et victimes. Donc, quand on lit ça, on se demande un peu où c'est qu'on va. Alors, comment vous est venue l'idée de ce spectacle? Je sais que c'est très intime, hein, puisque je vous ai vu jouer ce spectacle et j'ai vu l'émotion qui était la vôtre, notamment à la fin, où là, vous pouvez vous lâcher. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce spectacle? C'est vous l'avez écrit à deux, hein, vous m'avez dit tout à l'heure.
Ouais.
Pourquoi d'abord à deux, vous auriez pu l'écrire toute seule?
Oui,
vous
mais je me sentais.
Vous ne sentiez pas?
Non, en plus avec mon français, et non, je ne me sentais pas. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aide de mettre en forme.
De mettre en forme, voilà. Mais l'idée de départ, de fond,
c'est, moi,
c'est vous, puisque c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre chair.
Oui. Bon, et cette recherche de racines, ça vient souvent quand on est déjà un peu âgé.
Oui, encore ça va, là.
Oui, mais bon, c'est déjà, mes enfants sont grands, c'est un autre regard vers les générations.
Donc vous avez regardé vers le papy au pas en allemand?
Bon, le truc, c'est que moi, je savais toujours, déjà enfant, que mes deux grands-pères, c'était des nazis. Mais c'était un fait, j'ai grandi dedans Et malgré le fait qu'il y avait un omerta autour, il n'y avait pas trop de questions à poser. On savait des petites choses et je n'ai jamais posé des questions, vraiment. Et je crois le fait de vivre en France et d'être étrangère, j'étais regardée par un regard français. Et ce regard français voit toujours le nazi. En allemand. Bah, bon.
Ça commence un peu à s'estomper quand
c'est,
même.
C'est, bon, j'étais. Mais il y a quand même. Même s'il y a juste. Arton ou des petites blagues de. Oh, je ne suis pas nazi. Hein. c'est pas que les nazis, mais on te. Je ressens le regard. Moi, allemande, je suis allemande et je porte l'histoire. Ce que je n'ai pas à faire. Quand je suis en Allemagne.
Vous vous sentez responsable de quelque chose?
Responsable, bien sûr. Oui, responsable.
C'est la troisième vous êtes la troisième génération hein, par rapport au...
Pas coupable. Responsable pour que ça n'arrive plus jamais. Responsable de regarder d'où je viens. Responsable de porter des valeurs, de créer, de forger mes valeurs et de vivre, d'avoir un regard humaniste vers les autres. Je crois que c'est, étant allemand, tu ne peux pas être indifférent par rapport à ton histoire.
Ça veut dire que vos grands-parents étaient vraiment nazis, parce que tous les Allemands n'ont pas été nazis, hein, Dieu merci.
Non, mais les miens,
beaucoup en ont souffert aussi, comme nous en avons souffert. Ils se sont même battus avec beaucoup de courage contre ça. Mais bon. Tandis que les vôtres étaient des nazis, des vrais, entre guillemets, stricto sensu. C'est-à-dire qu'ils ont agi.
Ils ont agi. Alors, le spectacle va surtout... vers mon grand-père paternel qui était Reichsbahndirektor für die Ostgebiete, c'est-à-dire directeur des trains pour les territoires de l'Est annexés par le Reich.
Ça veut dire qu'il faisait partie de ceux qui ont organisé la déportation de Juifs et d'autres.
C'est lui qui a organisé le réseau des rails pour rendre possible la déportation, en fait. Sans les rails, ça n'aurait pas été possible. Et ça, je savais, et ça ne m'a jamais causé gros problème.
Vous l'avez bien sûr connu, vous l'avez fréquenté, ouais. Vous étiez proche de lui, j'imagine, comme on peut l'être d'un grand-père.
Bon, non. Je l'ai connu, mais il n'était pas vraiment proche de moi, parce que moi, j'étais d'abord la fille de son fils qui ne l'aimait pas. Et après, j'étais une fille. Et après, j'étais... des yeux bruns et Oui, alors
il était vraiment nazi. Donc,
il était vraiment nazi, oui. Même avec sa propre famille. Il avait, alors, quand tu avais un visage rond, tu avais moins de valeur.
Il a été inquiété quand le régime est tombé ou pas ?
Il était mis en prison dans Stalag, à Munich, par les Américains, à Moosburg. Et ce que mon père m'a raconté, c'est qu'il aurait dû être condamné à mort, ou il était condamné à mort, et quand il sentait que ça se resserre autour de lui, il était très intelligent, très doué, il dessinait. Et alors, il a dit, mais pour le fait que vous m'accusez, j'étais à Düsseldorf. Ça veut dire que c'est les Britanniques qui doivent me juger, pas vous. Et les Américains, ils étaient plus que contents de pouvoir se débarrasser de lui et l'envoyer chez les Britanniques. C'était déjà la guerre froide. Et les Britanniques, ils ont dit, oh, nous, on aurait fait pareil. Hein. Et ils l'ont lâché juste avec l'interdiction d'exercer son métier. Mais comme il avait un autre métier dans la construction, il a fait son entreprise dans la construction après.
Et vous aviez des rapports avec lui, même un peu distants, on l'a compris, mais...
Moi, je ne me rappelle pas de l'avoir parlé.
Oui, donc vous n'avez jamais évoqué cette période avec lui, ce qu'il a fait.
Ah mais non, non. Ça, non mais j'étais trop petite. Il est mort, j'avais 6 ans et demi. Alors que je n'ai pas évoqué cette période, et même il ne l'aurait jamais fait avec moi, parce que je ne valais pas.
Et votre père, quel rapport avait-il ? Bon, il ne l'aimait pas, vous nous l'avez dit, mais est-ce que pour autant ils avaient quand même des contacts ? Est-ce qu'ils ont parlé ? Est-ce que votre père vous a raconté ?
Il m'a raconté des bribes, oui. Il m'a raconté, par exemple, que... comme il était responsable pour les rails, un général un jour lui impose de faire des rails, une trace. Et lui, il dit, c'est impossible, je ne peux pas faire une trace, c'est marécageux, les rails ils vont pas tenir. Alors, il dit, c'est un ordre. Il dit, oui, mais c'est un ordre, mais je ne peux pas le faire parce qu'il y a un marécage. Et alors, ils ont dit, bon, d'accord, on laisse trancher Hitler. Alors, ils sont allés voir Hitler pour qu'il tranche. Bon, ça, c'est une anecdote.
Oui, ça veut dire quand même qu'il était profondément implanté dans le système nazi de l'époque.
Oui, mais je ne trouve aucune trace. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai écrit à Bundesarchiv, à Wehrmacht, Eisenbahnarchiv, plein des archives. Je trouve la carte de parti, quelques numéros, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Pourquoi il était jugé ? Je n'ai pas trouvé.
Quel regard vous portez sur lui aujourd'hui, avec le recul ?
Le truc, c'est qu'en faisant ce spectacle, il me devient plus en plus proche, malgré le fait qu'il n'était pas très proche. Et ce conflit entre le bien et le mal, c'est... quel regard ? J'ai toujours le regard de cette petite fille que j'étais, qui accusait mon grand-père d'avoir détruit mon père. Ça, c'est le regard aussi. Je sais qu'il était beau gosse, qu'il avait beaucoup de femmes autour. J'ai probablement plein d'oncles et tantes encore que je ne connais pas. Parce que c'était aussi la doctrine nazie. Quand il était beau, grand, blond et des yeux bleus, il fallait faire beaucoup d'enfants. Et il en a profité. Et moi, je me questionne des fois et je ressens de malaise, en fait, quand je pense à lui, à cette... Hier, je regardais un film, Gundermann, d'Andreas Dresden. Et c'était autour de ce bien et le mal, et que c'est dans une seule personne. Et comment le pardon, comment il est, on est déchiré, on est des paradoxes, tous. Je n'ai pas envie de juger mon grand-père, c'est plutôt que j'ai envie de me forger des outils pour avancer le clore pour moi. Mais pour le clore, il faut le regarder bien, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que je porte ça en moi et qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants.
Vous avez lu Hannah Arendt, bien sûr. Sa notion de banalité du mal, vous la retrouvez là à travers...
C'est bizarre, quand j'ai regardé Le Spécialiste, c'est le film qu'ils ont fait de procès d'Eichmann, de 600 heures en 1h30. Et quand je l'entendais parler, j'ai eu des frissons parce que j'ai entendu mon grand-père parler. Il avait les mêmes sonorités.
Mêmes intonations.
C'était un homme banal dans le sens de Hannah Arendt. Et qui a commis des atrocités terribles. Mon père, par exemple, parce que je l'avais demandé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit non, il n'a jamais fait du mal. Il était peut-être présent, ok, à voir, mais il n'a jamais fait du mal. Mais qu'est-ce que c'est du mal ? Si tu es là et organises, planifies les réseaux...
C'était un maillon de la chaîne.
C'est un maillon de la chaîne très important. La banalité du mal, c'est ça qu'on est... En même temps, quand je parle du mal, j'ai toujours un malaise parce que je sens bien que j'ai péché, entre guillemets, moi aussi, du coup, ou qui on est
de
juger.
C'est peut-être un peu excessif dire que vous avez péché.
Non, c'est, mais juste, qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que je peux... Moi, je ne veux pas me pencher dessus, mais moi, j'avais plutôt le regard de ma génération aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous, on peut en tirer comme leçon pour vivre maintenant et pour donner les outils pour nos enfants, je crois. Que l'autre fois, j'ai parlé de la mort de Jean Weisslich, qui c'était la personne initiale pour laquelle j'ai fait ce spectacle, qui est mort le 7 janvier. Et j'ai parlé avec mes enfants, leur expliquer qu'il était à Auschwitz, que c'était le plus terrible camp qui jamais existé et qu'il ne va jamais exister non plus. Et tous les deux se regardent et ils me disent « Tu crois vraiment ?» Et là, j'avais « Moi, je suis naïve. Moi, je pense qu'un truc comme ça... » On a vu le gouffre du mal à Auschwitz. Comment les jeunes peuvent dire c'est possible que ça redevient un jour un truc pareil? Et je me suis dit waouh, alors il faut vraiment être vigilant, très très vigilant.
C'est ce spectacle pendant lequel vous dialoguez avec le grand-père, vous le questionnez finalement, hein. C'est une thérapie pour vous ?
J'ai fait mes thérapies.
Oui.
Mais l'art, c'est quelque chose qui va dans les entrailles. Bien sûr, je ne fais pas ma thérapie avec le théâtre. Ça, je refuse. Moi, je fais la thérapie à part. je l'ai finie. Je crois, sans avoir fait la thérapie, j'aurais jamais pu faire ce spectacle. En même temps, ce spectacle, c'est un processus. Ça veut dire, moi, je veux, avec ce spectacle, aller en rencontre des gens. Qu'est-ce qu'ils vivent avec et qu'est-ce que moi, je peux me faire vivre avec mes thérapies ? Non.
Et vos enfants ont vu le spectacle ?
Oui, ils sont très fiers.
Est-ce que ça leur a... peut-être les amener à se poser des questions sur le passé de leur arrière-grand-père
qu'ils ont comme moi, quand j'avais leur âge, j'ai dit, bah, c'est Moyen-Âge, hein. Qu'est-ce que tu veux ? Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que ça va avoir avec moi ? Je crois que ce regard vers les générations, qu'on fait partie de cette lignée, ça arrive quand on est plus âgé, quand on a 20 ans, les choses qui étaient 20, 40, 60, 80 ans, mais c'est vraiment, c'est peut-être des faits historiques, mais pas plus.
Oui, alors qu'on est quand même sur un mouvement un peu intemporel, on parlait du mal, hein, cette banalité du mal. Ce qui s'est passé reviendra un jour, c'est peut-être même en train de se produire quelque part. Si on regarde la Chine, par exemple, qui enferme les Ouïghours dans des camps, bon, alors il les supprime pas vraiment, mais bon, on sent quand même que partout dans le monde, le mal est toujours présent. Et malgré cet exemple terrible que nous avons eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça revient régulièrement. Le passé n'a apporté aucune leçon.
Oui, bon, ça dépend de chacun. Chacun doit... C'est pour ça que je fais ce spectacle, parce que c'est... Je me sens obligée de regarder, mais pas pour faire l'histoire, mais vraiment pour dire comment je peux me armer pour mieux affronter le monde aujourd'hui.
Alors ce spectacle, vous l'avez joué, vous le jouez encore, on va pouvoir le voir bientôt de nouveau.
Alors ce samedi, le 22 janvier, c'est à l'Espace Rouget à 20h30.
Il n'y avait pas une idée de film derrière aussi, que le spectacle
soit filmé ? Le film a été montré lundi dernier, le 17, au cinéma ABC.
Il a été réalisé.
Mm-hmm.
D'accord, c'est un film qui reprend le spectacle à l'identique ?
Pas du tout. Pour faire le spectacle, c'était vraiment un long cheminement pour voir comment je vais faire. Et un jour, j'étais à Berlin, j'étais à une association de petits enfants de la guerre. Et sur les effets de la guerre sur les générations à venir. Et je me suis dit, non, je ne peux pas faire un spectacle que sur moi et mon grand-père. Il faut les victimes. Alors, et comme je vais rencontrer Jean Weisslick, et j'avais cette initiale, c'était vraiment initiatique. Le moment où Jean, il a sorti son livre et il a parlé de son travaux comme travail forcé à Auschwitz dans les trains. Il a dû poser les rails. Et du coup, je me suis dit, ah, mon grand-père était là, ils auraient pu se croiser. Et du coup, c'est le moment-là où je me suis rendu compte que ce n'est pas l'histoire, que je suis concernée. Et alors, je me suis rappelé de ce moment-là et je me suis dit, je vais faire des interviews avec eux. Et après, en rentrant de Berlin, j'ai demandé à Francis Fourcou de m'aider à faire la caméra pour l'entretien, pour que j'utilise dans mon spectacle. D'abord, c'était juste cette idée. Alors, moi, je voulais interviewer Jean Weisslick. Et Marie Weisslick était là, son épouse. Et alors, Marie Weisslick, elle est déportée de Toulouse à Ravensbrück en 1944. Elle avait 14 ans. Alors, elle a témoigné aussi. Et après, Marie dit, oui, mais alors, moi aussi, je vais t'interviewer. Et parce que tous les deux, ils ont un humour super, une humanité extraordinaire. Alors, elle m'a interviewée et du coup, on avait ce matériel. C'était beaucoup plus que j'avais besoin pour le spectacle.
On reviendra tout à l'heure sur Jean et Marie Weisslick. On fait une deuxième pause musicale. Alors, on va écouter un monsieur qui est décédé il y a 20 ans, Gilbert Bécaud, vous le connaissez, hein, chanteur, compositeur, pianiste, donc qui a fait plus de 30 fois l'Olympia. On l'appelait à l'époque Monsieur 100 000 volts en raison de son sens du swing. C'est un monsieur qui est très connu notamment, qui a écrit des chansons qui ont été traduites en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Plusieurs de ses compositions se sont imposées à l'étranger, notamment aux États-Unis où il est très connu. Avec Charles Aznavour, ce sont certainement les deux chanteurs les plus connus et plusieurs de ses tubes ont été numéro 1 au hit parade. Alors, écoutons avec une pensée pour Monsieur Bécaud, écoutons L'importance et la rose, sur des paroles de Louis Amade, qui était poète, mais qui était aussi, c'est assez rare, préfet de police de Paris à l'époque.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important,
c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre. Petit oiseau, sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême. Et pourtant, l'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi.
Voilà, nous retrouvons Ilka Firkan, notre invité. On laisse Gilbert Bécaud et sa rose sur les paroles de Louis Hamad, encore une fois poète et préfet de police, qui avait imaginé cette chanson en voyant un de ses agents pour l'inauguration de la Maison Ronde qui faisait la circulation avec une rose à la place du bâton blanc. Et donc ça l'a inspiré. Du coup, on a l'important, c'est la rose. Ilka Firkan qui vient de nous parler de son dernier spectacle au Par. On rappellera tout à l'heure. Quand est-ce qu'on peut le voir ? Alors, Ilka Firkan, quand vous ne jouez pas, vous faites du tango, il paraît, tango argentin ?
Oui, mais ça aussi depuis 2 ans, très peu. Mais j'adore le tango argentin, oui.
Et vous m'aviez dit aussi de la technique Alexander. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est que la technique Alexander. Je me tourne vers la technique. Apparemment, ils ne savent pas non plus. Alors, il va falloir nous expliquer ce que c'est que la technique Alexander.
Oh là là, si Ulrich Funk m'écoute maintenant, c'est mon prof. J'ai fait une formation et c'est en fait un travail sur l'usage de soi, qui comprend l'entité psychophysique. Et ça travaille sur le défaire, sur tes habitudes. Et en fait, pour moi aussi, bon, c'est un travail corporel, mais pas que. Et c'est un travail avec lequel tu trouves plus de liberté et moins d'effort pour tes gestes et moins d'effort dans ce que tu fais et plus de choix. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, j'aime bien le livre de Viktor Frankl. J'ai regardé un peu, je me suis dit, oh là là, il faut savoir de quoi je parle. Et je regarde, la première phrase était que Viktor Frankl, il a précisionné entre le stimulus et la réaction de mettre une pause. Et c'est exactement la technique Alexander, en fait. de dire de, je ne réagis pas direct, mais je laisse une pause. Et dans cette pause, je me réajuste et je refais mon choix. Je regarde, j'ouvre mon champ des possibles. Et après, j'y vais. Et je peux à tout moment changer. Pour moi, aujourd'hui, c'est mon explication. C'est très difficile parce que c'est enseigné par les mains.
Alors justement, avec les mains, je sais que vous faites aussi de l'aïkido et les mains sont importantes en aïkido. Là, il n'y a pas trop de pause, on ne regarde pas, on y va direct, là,
oui, avec mais l'aïkido. Oui, mais il faut bien accueillir pour envoyer après.
Oui, tout à fait, ça c'est l'art des techniques de combat japonaises, effectivement. Alors, j'ai toujours les trois questions que je pose en fin d'émission à mes invités. La première, c'est parlez-moi d'une œuvre d'art qui vous a marqué. Tous les oiseaux ?
Tous les oiseaux de Washti Mouawad.
Qu'est-ce que c'est, Tous les oiseaux ? Vous pouvez nous le décrire un peu ?
C'est un spectacle de Washti Mouawad que j'ai vu ici à Toulouse. Et Washti Mouawad, c'est un homme de théâtre libanais québécois maintenant, parce qu'il était réfugié, il avait 10 ans quand il est parti.
Mais je crois qu'il a écrit un livre que Francis Fourcou m'avait offert.
Oui, un samedi proprement.
Oui, je crois, oui, qui m'avait marqué, oui.
C'est extraordinaire son travail, parce que, moi, en fait, c'est toujours ce travail de la transmission de plusieurs générations. Et dans Tous les oiseaux, le petit-fils d'un juif berlinois va à New York, il rencontre, tombe amoureux d'une arabe et après elle tombe malade. Du coup, toute la famille se rencontre à Israël. Alors, c'est parlé dans quatre langues, en anglais, allemand, hébreu, je crois, et arabe. Et bon, pour moi, c'était vraiment une découverte. Washti Mouawad, pour moi, c'est un grand, grand, grand.
Alors, venant à un autre grand pour vous qui vous a marqué, une journée particulière, c'est la rencontre avec Jean Weisling. Donc, on a un peu parlé, mais on n'a pas trop dit qui était Jean Weisling. Et dans quelles circonstances vous l'avez rencontré ?
Alors, la première fois, Jean Weisling, je l'ai rencontré parce que j'ai filmé leurs témoignages qu'ils ont fait. Alors, Jean Weisling et Marie Weisling.
Donc, il y a été deux Toulousains déportés.
Ils ont témoigné leur déportation à l'école juive de Toulouse, à Osratora. Alors, Jean, sa déportation d'être juif polonais, de Lodz d'abord, vers différents camps, et à la fin Auschwitz et Marche de la mort et Buchenwald. Et Marie, sa déportation et dénonciation à Toulouse, elle est née à Toulouse et elle est déportée à Ravensbrück. Et du coup, ils ont fait ce témoignage à Osratora et moi je l'ai filmé. C'était mon premier approche avec eux et c'était mon premier éveil, mais je n'ai pas encore eu ce choc.
Et c'est là que c'est de là qu'est né un peu au pas.
Non. Là, c'était j'étais encore dans mes cordes de savoir et pas je me suis pas encore laissé toucher. Bon, j'étais très très ému, mais j'ai pas reçu une claque. La claque, je l'ai reçue quand j'ai vu Jean parler de son livre. Et c'est ce qu'il a vécu à Auschwitz. Et là, il était plus... Et je voyais comment cet homme souffre encore aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il est mort, mais c'était il y a deux ans.
Oui, c'était il y a très peu de temps. Mm-hmm. Donc, on a une pensée pour lui, pour Marie Weisling aussi.
C'était impossible de ne pas sentir sa souffrance. Et du coup, cette rencontre avec Jean Weisling, je crois, c'est hyper important pour moi. Je suis très, très reconnaissant, tous les deux, à Jean et à Marie, d'avoir ouvert leur porte pour moi, parce que ce n'est pas du tout anodin qu'une petite fille de nazi rencontre des survivants de la Shoah. Et ils ont fait ça, et Jean, il a il a traité ça avec humour, beaucoup d'humanité, et c'était quelqu'un de très, très humble. Et à la fin du spectacle, ou pas pour la première, j'ai dit, oh, j'avais beaucoup peur parce que vous ne connaissez pas ce spectacle. Et il me regarde et il me dit, vous avez réussi.
Ah. Jean Weisslick. Une autre personne qui vous a marqué, je ne sais pas si elle vous a fait, entre guillemets, c'est Edgar Morin.
Edgar Morin, bon, j'ai lu un livre sur la mort, nos morts de la vie. Et là, Edgar Morin, il avait un petit article dedans. Et ça m'a beaucoup touchée, ce qu'il avait écrit sur la mort de sa mère. Et j'avais raconté ça à Francis Fourcou. Et Francis Fourcou me dit, mais ça fait longtemps que je voulais faire interview avec Edgar Morin. On y va. Alors on est allé à Paris. Il était encore dans les temps à Paris. On a fait une interview avec lui. Et j'étais impressionnée par cet homme d'une douceur et ouverture d'esprit extraordinaire. Oui, c'était un grand... J'étais très, très émue.
Dernière séquence de cette émission, Ilka Firkant, la séquence littéraire. Vous nous avez choisi un livre, Découvrir un sens dans la vie, de Viktor Frankl.
Viktor Frankl.
Qui est un Allemand.
Binois.
Viennois, est... pardon. Donc autrichien.
Autrichien.
Trotzdem, je me lance, Yad zum Leben sagen, c'est ça.
C'est ça. Et Viktor Frankl, la découverte, alors c'était... J'étais dans le train de Berlin à Poznan pour rendre visite à une amie qui était atteinte de cancer. Et moi, je venais de perdre mon mari. Alors, j'étais... Et il y avait, dans ce compartiment de train, il y avait 6 nationalités et 6 personnes. Et chacun raconte sa vie. Et moi, je raconte la mienne. Et la femme en face de moi, c'est, il faut que vous lisiez Viktor Frankl. Et je me suis dit, c'est quoi Viktor Frankl? Et alors, des années plus tard, je vais au camp de concentration d'Auschwitz, dans la librairie, et là, je vois le livre de Viktor Frankl, « Ja zum Leben sagen ». Et alors, je le prends, je le lis, et je suis scié. Alors, Viktor Frankl, c'est un juif, psychiatre de Vienne, né 1905. Ça veut dire qu'il était déporté, il était déjà chef de clinique, il était un grand, qui a déjà sauvé plein des handicapés de l'euthanasie, qui aurait pu s'échapper parce qu'il avait un visum, mais il ne voulait pas laisser sa femme et ses parents. Il est déporté à Auschwitz et il en est sorti. Et après, le truc, c'est quand il était à Auschwitz, il s'est dit... Un jour, quand je sors d'ici, je vais en parler. Il se voyait dans les grandes universités américaines donner des discours sur ce qu'il a vu à Auschwitz. Et il s'en est sorti en disant c'est le rêve qu'il a sauvé aussi. Entre autres, il a construit une théorie au-dessus, il a fait la logothérapie. Mais c'est un très, très grand aussi pour moi.
Alors moi, je vais vous parler d'un tout autre style, si je puis dire. Ça s'appelle « Béni soit Sixtine ». C'est écrit par Maïlys Ademar, une jeune femme. C'est publié chez Julliard, également chez Pocket Julliard. Alors c'est une plongée assez sidérante chez les catholiques traditionnalistes, hein, qui est une plongée qui ne laisse absolument pas indifférent. C'est un premier roman, c'est très réussi. C'est le récit d'une émancipation et aussi d'une description sans concession de la bourgeoisie catholique intégriste et réactionnaire. Ça commence en avril 2012 à une messe, une vraie bonne messe de 2 heures à l'ancienne, avec génuflexion, et je cite Maïlys Ademar, rite tridentin, flamboyante liturgie en latin, propre aux catholiques romains depuis le XVIe siècle. Alors Marie, Hugo et Marie-Sophie, deux jeunes gens de bonne famille catholique, tradis, mais vraiment très tradis, comprenez, intégriste, tout simplement. Et là, Sixtine va rencontrer son futur époux, Pierre-Louis Sud de la Garde, qui se révèle être d'excellent parti, enfin, ça dépend comment on voit les choses, mais dans ce milieu, c'en est un. un jeune homme, et là aussi je recite Maïli, s'est lancé solide, cheveux ras, nuque dégagée, le costume parfaitement taillé, bleu marine, les boutons à fleurs de lys et le nœud papillon rouge bordeaux. Voilà, alors on va regarder vivre ce couple, on va voir ce qui va se passer. C'est pour un premier roman, je peux vous dire, c'est une belle plume. Hein, moi, je l'aurais édité sans l'ombre d'une hésitation. Donc, allez lire Béni soit Sixtine. Vous allez plonger dans un milieu qui ne vous est certainement pas familier. Mais on y apprend beaucoup de choses et l'histoire est tout à fait passionnante. Écrit par Maïlys Adémar, encore une fois, une réussite. Eh bien, nous arrivons, Ilka Firkant, au bout de cette émission. Merci d'être venu nous consacrer une heure. On va rappeler que votre spectacle, on peut le voir très prochainement, c'est-à-dire samedi 22 à 20h30, c'est ça, à l'Espace Roguet, que c'est le département qui nous l'offre, donc c'est gratuit, mais comme c'est gratuit, il y aura du monde, il y a toujours du monde, mais il y en aura peut-être encore plus, donc n'arrivez pas trop tard si vous voulez avoir une bonne place. Voilà, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, à la Ravel Technique, Yanis Boudin, que j'ai eu le grand plaisir de retrouver aujourd'hui. Merci Yanis, sous les yeux de Mathieu, qui apprend un peu le métier, qui est stagiaire chez nous. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que ceux de toutes les autres, bien sûr, sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.